Éric Dauterre, Radio Scénique, bonjour. Au théâtre, il y a de multiples façons d'aborder un même thème. Entre tragédie noire et comique débridée, toute une nuance peut s'exprimer. Même lorsque le thème est grave, la liberté de l'aborder avec son propre prisme doit rester intacte pour le créateur. Avec nos deux invités d'aujourd'hui, les thèmes abordés sont graves en effet. Il y a d'un côté avec Climax le changement climatique. Ludovic Pitorin et sa troupe zygomatique ont choisi d'en parler avec un pas de côté, humour, drôlerie, bouffonnerie parfois. On les retrouvera en deuxième partie d'émission. Alors de l'autre côté, il y a Les Témoins, spectacle écrit, mis en scène et joué par Yann Rezeau et cinq autres comédiens. Ici, pas question d'aborder la situation autrement que frontalement. La pièce y montre une extrême droite autoritaire arrivée au pouvoir et qui restreint les droits, y compris celui d'informer. Or, Les Témoins, c'est le nom d'un organe de presse. La suite, c'est Yann Rezeau qui va lui-même nous la raconter. Il est avec nous en studio et nous le retrouverons dans quelques minutes. Voilà pour l'essentiel. Vous avez le programme, ajoutez-y un peu de musique et d'extraits de spectacles sélectionnés avec l'aide de Pierre Demkoff et le talent de nos techniciens Enrico Mastrogiovanni et vous aurez le menu complet de notre émission de ce jour. Alors éternuez vos portables et baissez les lumières. Voici Radio Scénique, 24e édition.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Yann Rezeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de pas moins de 7 pièces, si je ne m'abuse.
J'ai arrêté de compter, mais un certain nombre, oui.
Alors, sur le plateau de la Manufacture des Abbesses où se jouent Les Témoins, il y a une grande table. On est dans la rédaction des Témoins et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est en situation de tension.
Oui, absolument. La pièce débute quelques heures après l'élection d'un candidat extrême droite au pouvoir. Et la rédaction des Témoins, qui est un média indépendant et qui a une certaine aura, se retrouve confrontée à cette situation qui peut arriver dans une démocratie, l'arrivée d'un pouvoir autoritaire, effectivement. Et la grande question de savoir comment couvrir ce pouvoir-là. Il est arrivé au pouvoir démocratiquement, on est toujours dans une démocratie. La question qui les agite, c'est jusqu'à quand on sera en démocratie? Est-ce qu'ils sont depuis ce jour-là en résistance ou est-ce qu'ils doivent continuer à être des journalistes indépendants et respectueux de leur engagement? Voilà, c'est la question qui agite la rédaction.
On peut balayer les personnages, hein. Il y a Eric.
Alors effectivement, il y a six journalistes principaux qu'on voit, il y a une vingtaine de personnages, je crois, en tout. Et effectivement, il y a le rédacteur en chef qui est un peu secoué, choqué par ce qui se passe.
Que vous incarnez.
Ouais, aussi parce qu'il a il a pris un moment de drame personnel. Il y a la rédactrice en chef adjointe qui est
Catherine.
Aussi sa compagne, qui est une espèce de tank et un moine soldat qui ne recule devant rien et qui, elle, essaye de garder leur ligne coûte que coûte. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a Romain qui est un journaliste qui vient d'un média de gauche et qui arrive dans cette rédaction récemment, il y a 2 ans. Et cette rédaction refuse tout journaliste d'opinion. Et lui, il a rejoint cette rédaction en étant d'accord avec ça, en acceptant cette non-ligne. Sauf que quand la pièce démarre, il se retrouve confronté à ses idéaux et à ses convictions. Et il essaye de faire bouger les lignes en disant que ce n'est plus possible. Avec ce pouvoir-là, on ne peut plus continuer comme avant.
Alors, ce que professe la rédaction, c'est l'information avant tout.
Oui, c'est une réaction épidermique contre le journalisme d'opinion. Le journalisme est censé relater les faits, rien que les faits, tous les faits. Mais il est traversé aussi par différents courants, ça ne date pas d'hier, hein, de journalisme d'opinion, depuis très longtemps. Mais il y a une polarisation depuis quelques années, effectivement, avec de plus en plus de médias d'opinion très tranchés. Et donc, certains journalistes, cherchent un juste milieu où ils peuvent faire leur métier sans être taxés de gauchisme ou d'ultra-droite. Et donc, ils essayent, eux, d'incarner ce journalisme un peu éthique et utopique, peut-être un petit peu, mais en tout cas, ils essayent de s'accrocher à cette ligne-là. Et donc, ils ont créé ce média indépendant il y a quelques années, qui est devenu une référence, parce que c'était tous des journalistes déjà chevronnés. Et ils tiennent cette ligne-là, sauf que cette situation remet un peu tout en question.
Alors, chevronnés, ils le sont, et on voit leurs atermoiements. Quand une information n'est pas vérifiée par au moins 2 sources, on ne la publie pas.
Bien sûr, c'est une règle de base du journalisme, avec la protection des sources, avec différentes choses. Effectivement, la pièce parle de ça, de l'éthique des journalistes, de manière plus ou moins sérieuse. Il y a un journaliste qui oublie de dire qu'il est journaliste quand il rencontre ses sources et il se fait reprendre de voler plusieurs fois par ses collègues. et parfois de manière beaucoup plus sérieuse, effectivement. Donc on parle de l'éthique et de la responsabilité des journalistes. C'est une pièce sur la liberté de la presse, mais c'est aussi une pièce sur la responsabilité des journalistes par rapport aux infos qu'ils publient ou qu'ils ne publient pas. On les voit avoir des débats parfois très très aigus et violents entre eux.
C'est vraiment une pièce de verbe. C'est une pièce écrite à la manière des journalistes, c'est-à-dire qu'on a des débats sans fin, ouais, sur la publication de telle ou telle information.
Absolument,
sur une petite chose qui en fait en cache une énorme.
Ouais, ouais. C'est une réflexion sur le travail de journaliste aussi. Moi, le journaliste, c'est un peu mes cousins. Je fais toujours un travail de recherche très important quand j'écris des spectacles. Là aussi, j'étais dans des rédactions de journaux très importants pour voir comment ils travaillaient, pour inverser un peu le travail et moi les interviewer. Donc, je comprends un peu leur manière de faire, leur manière de réfléchir. Même si moi, après, je fais de la fiction et que c'est extrêmement différent. Mais au départ, voilà, on est un peu des cousins éloignés. Donc, effectivement, il y a cette culture du débat, de la réflexion et de la responsabilité de ce qu'on peut dire, ce qu'on doit dire et de comment on doit le dire aussi.
Quand et dans quel contexte avez-vous écrit ce texte ? Parce que c'est intéressant, les médias ont énormément changé avec l'arrivée de milliardaires dans la sphère médiatique et, et un pôle de presse de conservateur, pour le moins qu'on puisse dire, très, très prégnant dans les médias. Mmh. Cette pièce date de quand ?
La pièce est écrite en 2019, donc elle est vieille.
C'est une autre époque. Hein.
Ouais, non, c'est vrai. Puis je l'ai écrit 2017-2018, donc c'est ça, on a plus de 10 ans. Donc là, elle s'arrête ce week-end, c'est vraiment la fin de la comète.
Oui, profitez-en. Alors on va inviter les auditeurs à se ruer, parce qu'il ne reste plus que deux...
En fait, il reste deux dates, jeudi, vendredi, mais vendredi, c'est complet. Donc oui, il vous reste une date, jeudi.
Vous avez compris, la salle est petite, donc ouais. Allez-y.
Donc effectivement, je l'ai écrit à une époque différente. Plusieurs choses avaient motivé la rédaction de la pièce. La montée de Fox News aux États-Unis, une chaîne d'extrême droite, plus ou moins assumée, décomplexée, mais où effectivement il y avait cette idée que le journalisme pouvait être au service d'une idéologie. Il y a beaucoup de journalistes qui font du journalisme d'opinion, mais qui font quand même du journalisme. Fox News a posé quelque chose sur la table qui était extrêmement différent, où ils étaient d'abord au service d'une idéologie. Et c'est là où il y a un problème, enfin pour moi il y a un problème. Et la deuxième chose, c'était l'arrivée d'Hitler au pouvoir et la manière dont les journaux avaient couvert ça et comment il s'était positionné par rapport à ça, parce que lui aussi est arrivé au pouvoir démocratiquement dans un contexte avec des mécanismes très différents, mais néanmoins. Et il y avait eu un bouquin d'ailleurs qui avait été écrit à cette époque, qui était passionnant sur ça. Et donc voilà, c'était l'idée de qu'est-ce qu'on fait s'il se passe ça aujourd'hui.
Alors justement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un des débats qui agitent la rédaction entre les tenants d'une information, les tenants comme Catherine, la rédactrice en chef, tenant d'une information objective, et les tenants d'une prise de position telle que Eric, le directeur de la rédaction, l'incarne.
Oui, c'est un débat important, effectivement. L'histoire des témoins, c'est un combat à mort entre une rédaction indépendante et un pouvoir qui devient chaque jour un peu plus mortifère. S'il est élu démocratiquement, la pièce va évoluer très rapidement et il va prendre le pouvoir de manière extrêmement autoritaire de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Et tous les journalistes vont devoir se positionner et ils vont tous tomber comme des dominos. La question, c'est de savoir quel est leur point de rupture. C'est ça qui m'intéresse. Et nous aussi, comme citoyens, quel est notre point de rupture ? À partir de quand on considère qu'on n'est plus en démocratie ? Est-ce que quand un pouvoir autoritaire arrive au pouvoir, justement, est-ce que c'est déjà la fin ? Ou est-ce que s'il est arrivé démocratiquement, finalement, on doit accepter le jeu de la démocratie ?
Il y a quelque chose de très troublant dans ce que vous faites dire à l'un de ses conseillers, à l'un des conseillers de ce président qui s'appelle Thomas Mérandien.
Ouais.
Vous lui faites dire ce que le président veut et la vérité.
Il y a une dérive autoritaire, effectivement. Il y a cette scène où effectivement, un des conseillers prend un peu la confiance et sermonne une journaliste extrêmement importante et elle comprend à ce moment-là que c'est plus la même chose qu'avant. Et elle a 30-40 ans d'expérience, etc. Et elle n'a jamais vu ça. Et elle comprend que quelque chose est en train de changer parce que la liberté qu'ils prennent et l'autorité qu'ils prennent, finalement, est légitime à leurs yeux. Et effectivement, plus on avance, plus les lois passent, plus les libertés se restreignent et plus il n'y a plus de débat sur le côté autoritaire du truc. Mais ce qui m'intéresse, effectivement, c'est le point de rupture de chaque personnage.
Est-ce que vous avez ce ressenti-là de l'effroi des spectateurs lorsqu'ils voient quelque chose. Peut-être il y a 6 ou 7 ans, lorsque vous avez écrit cette pièce, il n'y aurait pas eu la même réaction. Aujourd'hui, on se dit c'est à nos portes.
Ouais. Déjà à l'époque, il y avait la pièce, c'est un peu un thriller aussi. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Ça va très vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent et la pièce résonne différemment selon les époques. Effectivement, ça fait 7 ans qu'on la joue. Donc on a été dans plein de contextes différents, dans des contextes d'élections présidentielles, dans des contextes plus calmes. La pièce appartient aux spectateurs. Après, ils la ressentent comme ils veulent, mais effectivement, c'est différent dans cette période extrêmement instable qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, avec effectivement le pouvoir trumpien à nos portes.
Oui, qui est considéré par beaucoup d'observateurs de plus en plus comme un pouvoir fasciste. Et la manière dont il gère la police de l'immigration, la manière dont ils annexent des territoires qui sont finalement un peu indépendants quand même. Il y a une idée du fasciste, un fasciste qui se met en branle, et de plus en plus de commentateurs politiques, d'opposants politiques américains parlent ouvertement de ça, effectivement. Et puis Trump s'en défend à peine. Il a une vision très autoritaire du pouvoir et il est fasciné par d'autres dirigeants autoritaires.
Vous l'avez compris, avec Thomas Rezeau, l'auteur, metteur en scène et l'un des comédiens des témoins, nous parlons de la manière dont la politique peut s'exprimer sur scène. Vous êtes sur Aligre FM.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Et oui, avec Yann Rezeau, nous parlons des témoins. L'idée aujourd'hui sur Radio Scénique, c'est de savoir comment est-ce qu'on aborde un thème aussi sérieux. Tout à l'heure, on va le voir avec le changement climatique. Et là, avec l'arrivée d'un pouvoir autoritaire dans la politique française. Yann Rezeau, vous êtes donc l'auteur, le metteur en scène et l'un des comédiens des témoins dans lequel vous jouez sur un plateau qui comporte trois parties. Alors, il y a la partie centrale qui est la rédaction, c'est là où se font les débats, et on assiste à la naissance de l'information sur un grand panneau sur lequel est projetée la une, parce que les témoins, c'est un média en ligne.
Ouais,
c'est un média en ligne.
Ouais, l'idée, c'est qu'il y a un personnage principal, effectivement, qui est le journal en lui-même. Donc, effectivement, ils en parlent, ils débattent, etc. Mais derrière eux, il y a l'écran de la rédaction qui affiche les infos en flux continu. Donc, c'est le site de la rédaction qui est affiché. Donc, la première image, c'est l'extrême droite au pouvoir. C'est la une qu'ils ont choisie, très sobre, du lendemain de l'élection. Et puis, au fur et à mesure que les choses évoluent, cet écran, il sert à plein de choses différentes. Il montre les unes qui évoluent, les choix de titres qu'ils choisissent, les infos qu'ils choisissent de publier ou qu'ils choisissent de ne pas publier, parce que parfois ils débattent de trucs et finalement ils ne le publient pas. Et puis aussi on voit quand parfois ils écrivent des articles.
Il y a un texte en train de progresser et puis on efface tout.
Et puis finalement le journaliste renonce
On renonce parce que soit c'est pas assez sourcé, soit parce qu'on a peur
Alors, il y a différentes raisons, effectivement, mais il y a effectivement ces deux cas de figure. Parfois, ils n'ont pas les moyens de publier, et puis les journalistes ont une éthique, ils essayent de s'y tenir. Ceux-là, encore plus que d'autres, parce qu'ils ont l'impression d'être phares dans la nuit.
C'est des purs, hein.
Oui, c'est des purs et durs. Un peu trop purs, peut-être. C'est la question qu'agite une partie de la rédaction. Effectivement, donc, parfois, ils écrivent un truc, etc. Ils n'ont pas les moyens de publier, donc ça reste à l'état de brouillon, et ils ne peuvent pas. Et parfois, ils effacent parce qu'ils ont peur des conséquences au fur et à mesure que la pièce avance. Les enjeux deviennent de plus en plus violents et extrêmes, donc il y a une responsabilité sur ce qu'on publie ou pas aussi.
Et ce ne sont pas seulement des articles politiques, puisque l'un des articles qui pose le plus problème, c'est la mise en cause d'un laboratoire pharmaceutique dont il se trouve que les dirigeants sont plus ou moins liés au pouvoir.
Oui, effectivement, il y a l'accession au pouvoir de Thomas Mérindien vient avec son entourage et l'un des labos pharmaceutiques les plus importants du pays, qui est fictionnel évidemment, est un proche de Mérindien, donc cette collusion inquiète beaucoup. Et puis il se trouve qu'il y a une enquête d'un des journalistes de réaction sur ce labo pharmaceutique, avec beaucoup de volets différents et qui peuvent porter un coup fatal peut-être à ce labo. Donc il y a la question de savoir si on peut le publier, quelles sont les conséquences éventuelles, etc. Donc il y a ce débat qui agite les journalistes.
Alors on a évoqué deux parties du plateau, il y a une troisième partie qui sont les côtés, à Cour et à Jardin, qui constituent des espaces de jeu où la vie s'invite, la violence de la rue, les échanges avec le pouvoir.
Les enquêtes aussi, ils sont dans le bureau, ils parlent entre eux, il y a cette idée de débat permanent. Les journalistes, l'un des trucs qui m'a le plus frappé quand j'avais fait des recherches, c'est à quel point ils débattaient entre eux en permanence et ils se confrontaient. Et il y a un truc sur la hiérarchie aussi, tous les journalistes demandent à leur chef de service ce qu'ils en pensent, les chefs de service demandent à leur lecteur en chef. Il y a quelque chose, une espèce de pyramide comme ça que j'avais trouvé assez passionnante dans la manière de conduire le débat. Et puis effectivement, après, ils vont sur le terrain, ils rencontrent leurs sources, ils débattent, il leur arrive plein de choses différentes. Et il y a un espace de jeu comme ça qui est réservé un peu aux enquêtes.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, montrer une rédaction, c'est avoir un temps de retard? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens s'informent via les réseaux sociaux.
Oui, mais qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? Il y a des gars qui parlent et qui donnent leur point de vue, et puis il y a le relais de travail journalistique finalement. Les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire. C'est une boîte, c'est comme Internet, on peut dire sur Internet. Mais sur Internet, il y a des articles du Monde, et puis il y a des complotistes foldingues qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi. Donc,
vous écririez la pièce de même manière aujourd'hui?
C'est un autre débat, quoi. Mais je pense pas que le problème des réseaux sociaux, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que choisissent les gens pour s'informer. On peut s'informer sur les réseaux sociaux et être abonné à des journaux très sérieux et qui font un travail réel. Et on peut s'informer sur des gens dont on ne sait même pas qui sont et on ne sait même pas quels. Voilà. Donc c'est plutôt. Qu'est-ce qu'on choisit comme média pour s'informer? Les réseaux sociaux, c'est comme critiquer la télévision, ça ne veut rien dire. Sur la télévision, il y a plein de choses différentes.
Je vous disais hors antenne que vous avez choisi un style âpre, austère. C'est pas une pièce qui cherche à se faire aimer, il n'y a pas d'expression de sentiment. On est purement sur une urgence et sur des échanges intellectuels.
Ouais, c'est une pièce de combat, c'est un thriller, c'est un combat à mort, encore une fois, entre une rédaction et un pouvoir mortifère. Donc il y a l'idée qu'il n'y a pas le temps, quoi. Et il y a peu de place au sentiment parce que ce temps-là n'existe plus, même s'il y a des histoires personnelles qui agitent aussi. Le rédacteur en chef et son bras droit étaient en couple, ils se séparent à un moment, ça a un impact aussi sur leurs décisions. Mais effectivement, il y a l'idée d'un thriller et d'un combat. C'est une pièce qui va très très vite et où il se passe beaucoup d'événements. Et donc, il n'y a pas vraiment le temps pour autre chose.
Alors, c'est une pièce qui va très vite, mais c'est une pièce qui prend son temps pour développer ses débats. À tel point que parfois, le spectateur qu'on est a envie de les secouer, ces journalistes, en leur disant décidez-vous, quoi, arrêtez de discutailler.
Là, évidemment, ils discutaillent. C'est vrai, mais c'est quelque chose de fondamental parce qu'ils doivent faire des choix. Et ils discutent entre eux pour savoir s'ils font le bon choix ou pas. Et moi, je trouve ces débats passionnants. Effectivement, ils sont longs, mais et l'envie de les secouer, moi, je la trouve cool. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous un point de vue sur ce qu'ils font. Et on est tous un des six journalistes principaux, finalement. On peut tous s'identifier à l'un d'eux et choisir lequel on serait. Et effectivement, et parfois, il y a des débats qui peuvent être crispants parce qu'on a un point de vue tous, en tant que spectateur, assez fort. On a envie de jeter sur scène pour participer au débat et dire non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça.
Je dois confesser que je connaissais pas votre théâtre et que j'ai été ravi de le découvrir. On peut préciser que la Manufacture des Abbesses, c'est un diptyque que vous proposez.
Ouais.
Il y a une autre pièce qui s'appelle Des ombres et des armes, qui est un voyage au sein d'une cellule terroriste.
C'est plus un thriller policier sur la DGSI qui traque une cellule terroriste. Effectivement, il y a aussi des suspects qui sont dans l'action terroriste ou pas, d'ailleurs. C'est un des débats, effectivement. Et c'est une pièce très... un thriller policier.
Qu'est-ce qui caractérise votre théâtre? On l'a dit tout à l'heure, bon, j'ai compté cette pièce, vous m'avez dit que vous aviez arrêté de compter. qu'est-ce qui caractérise votre théâtre, Yann Rezeau?
C'est un théâtre politique au sens où cherche à comprendre comment la société fonctionne et à voir de manière différente, peut-être cherche des angles différents, quelque chose qu'on n'a pas déjà vu avant, quelque chose d'un peu surprenant. Alors c'est une recherche, hein, peut-être que j'y arrive pas, peut-être que ça a déjà été fait, je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est ça, c'est de questionner la société dans laquelle on vit.
Pourquoi est-ce que vous arrêtez les témoins?
Et parce que toutes les pièces ont une fin, le théâtre c'est un art
éphémère.
Vous m'avez dit tout à l'heure,
avant antenne, on va détruire le décor, c'est quand même symboliquement. Alors vous en détruisez une partie sur scène, parce que dans la rage de la destruction du média, le décor en prend
un coup. Le décor prend cher,
Mais là, vous allez définitivement le détruire.
C'est la fin, ça fait 7 ans qu'on la joue, donc elle a eu déjà plusieurs fins, mais là je pense que c'est la vraie fin. On en a 250 représentations, on a fait 2 Avignon, on a beaucoup joué à Paris en tournée. Maintenant il faut savoir s'arrêter et passer à autre chose aussi. Puis moi j'ai fait 2 pièces entre temps, mais celle-là c'est vrai qu'elle a beaucoup marché, donc on a souvent eu envie de la reprendre. Et puis elle a un sens particulier, un écho particulier, une nécessité aussi peut-être particulière. Donc on l'a reprise encore là, mais c'est un peu champ du cygne.
Alors pourquoi vous êtes auteur, metteur en scène, ok. Pourquoi être comédie en même temps, enfin c'est 3 rôles?
Alors
non,
j'ai pas créé le rôle de Eric, c'était Frédéric Andreau, qui est un de mes acteurs fétiches, qui avait créé le rôle. Mais comme la pièce a duré pendant 7 ans, il y a dû avoir des remplacements parfois, parce que au moment où on dessine une reprise ou une prolongation, les acteurs ne sont pas disponibles. Et à un moment, Fred ne pouvait pas faire un Avignon, je crois, donc j'avais repris son rôle. Et puis voilà, je l'ai gardé un peu jusqu'à la fin, mais il y a certains rôles, on a eu 3 acteurs différents. C'est le lot des pièces qui durent un peu longtemps, c'est cool, mais souvent, il faut s'adapter, quoi. Il y a une comédienne qui était enceinte, là, pour la dernière reprise, donc j'ai dû pas encore faire un remplacement. Donc voilà, mais non, j'ai pas créé le personnage. Je trouve ça extrêmement compliqué de mettre en scène et de jouer dans la création d'une pièce. Je le ferai pas, je pense.
Par contre, vous m'avez dit tout à l'heure que écrire et mettre en scène, c'était pour vous indissociable.
Oui, moi j'ai toujours fait ça. J'ai écrit et je mets en scène, et je pense à la mise en scène quand j'écris, et je saurais même pas, on me propose parfois des mises en scène, mais je suis pas certain d'en être capable. C'est le même geste, la même façon de réfléchir. Effectivement, les deux pour moi sont assez indissociables.
Yann Rezeau, on va vous remercier. Rappelons que vous êtes l'auteur, le metteur en scène et, vous l'avez expliqué par force, l'un des comédiens des Témoins, dont il ne reste aujourd'hui, nous sommes lundi 26 janvier, dont il ne reste qu'une représentation.
Alors, il y en a une qui est complète, effectivement, donc la dernière chance, c'est ce jeudi.
Une ultime représentation à la Manufacture des Abbesses. Yann Rezeau, merci.
Merci à vous.
Traquer les Big Jim, Betty Boop, tout ce qui brille, le vent en poupe. Dénicher une bonne tête turque, chanteur sur leur tour, ministre en rut. Aucun problème pour trouver le prochain couillon à jeter dans la fosse au lion. Ça se bouscule au portillon. Juger, c'est contemporain. Baver, basique instinct. Tourner, rotative, faut bien vivre. Donner à manger aux molosses, combler son appétit féroce. Pour ne pas devenir furax, il faut que le vorace malaxe. Que ce soit de l'info ou de la tox, de la chair fraîche ou du botox. À qui la faute si le malheur désinfait le bonheur des autres? cable, tsunami, délit de sale gueule, rumeur calomnie, lifting, fitness, anorexie, cantine SDF, fiscal paradis, pour rêver d'une vie plus torride, consomme effet divers et tabloïd, entre deux publicités, cœur de cible. Donner à manger aux molosses, combler son appétit féroce, pour ne pas devenir furax, il faut que le vorace malaxe, que ce soit de l'info ou de la tox, de la chair fraîche ou du botox, à qui la faute si le malheur déjà fait le bonheur.
Vous êtes à l'écoute de Radio Scénique sur Aligre FM. Radio Scénique, votre magazine du spectacle vivant. Aujourd'hui, avec deux spectacles, on regarde comment parler sur scène de sujets aussi graves que l'arrivée au pouvoir d'un régime autoritaire, comme on l'a vu à l'instant avec les témoins de Johann Creusot. Avec Climax, présenté au Lucernaire, c'est de changement climatique que l'on parle. Et pour ce faire, Ludovic Pitorin et sa troupe zygomatique ont choisi l'humour et particulièrement le cabaret. Extrait de Climax.
Après un déjeuner de travail extrêmement positif,
des centaines de milliers de camions traversent l'Europe. Les tomates hollandaises sont vendues en Espagne et les tomates espagnoles sont vendues en Hollande.
Ludovic Pitorin, bonjour.
Bonjour.
On l'a entendu dans Climax, il s'agit d'aborder quelque chose aussi sérieux que le climat et ses changements via le cabaret, c'est ça ?
Oui, c'est comment on peut faire du musical burlesque pour interpeller le public et le rendre plus sensible sur la problématique climatique et la perte de la biodiversité. C'est les deux thématiques qu'on a souhaité aborder dans Climax. Comment mettre l'humour au service de l'humain et comment faire en sorte que le rire du ventre éclaire nos cerveaux. Le soir, sur l'oreiller, j'ai toujours un peu l'espoir que les spectateurs puissent réfléchir un peu sur ce qu'ils ont vu. Et j'ai envie aussi de leur donner la possibilité de se divertir pendant un peu plus d'une heure. Donc voilà, réflexion, rire, les deux vont plutôt bien ensemble avec ce spectacle.
Comment est née cette aventure, ce spectacle qui caracole joyeusement vers sa 525e, 530e représentation ?
C'est le parcours d'une compagnie qui va fêter ses 25 ans bientôt et qui cherche un langage entre le théâtre burlesque et des sujets de société. Le musical aussi, parce que les comédiens sont à la fois chanteurs, danseurs, mimes. Donc voilà, comment on fait du théâtre total sur des sujets importants ? Et forcément, mais ça se patine, ça avance. On a monté différents spectacles qui ont tourné, d'autres qui ont beaucoup, beaucoup tourné. Celui-ci tourne énormément, c'est le plus gros succès de la compagnie depuis qu'elle existe. Donc voilà, on essaye de trouver un langage et on essaie de trouver comment on pourrait jouer partout et pour tous. Ça, c'est l'ADN de la compagnie, essayer de jouer partout où on ne nous attend pas finalement. Et moi, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est de faire venir celui qui n'avait pas prévu de venir.
Alors on peut peut-être raconter comment ça se présente. Ça se présente sous forme de plusieurs journées qui vont défiler, qui sont au mois de juillet. Alors ça démarre par le Covid.
Oui, alors c'est une petite boutade avec le Covid. Bon, on va pas spoiler le spectacle, hein, les gens viendront voir, mais ça commence par une petite boutade, une voix off, et puis ensuite on sait où on est, quoi. On donne un petit peu le ton du spectacle et puis ensuite on se plonge directement dans le début de la narration et on a souhaité mettre au cœur du spectacle le sujet qui pour moi est quand même l'avenir de nos enfants. Donc on accueille le prochain nouveau-né. Comme toutes les secondes, il y a un prochain nouveau-né. Ben nous, on l'accueille, il tombe du ciel. Et puis on lui dit, ben voilà, on va te montrer l'état du monde. Alors c'est évidemment le terrain de jeu pour un voyage épique à travers des tas de situations, des tas de pays. Et on essaye, voilà, jour après jour, de lui raconter, l'état du monde.
Alors sans pour autant révéler exactement ce qui s'y passe, on peut dire que ça commence sur le Mont Blanc.
Ouais, ça commence sur le Mont Blanc avec des températures qui ont été relevées, qui sont absolument incroyables. Et puis ça part assez vite. Ça part assez vite sur le Groenland avec un numéro de patinage artistique sur banquise. On s'était dit que ça serait quand même assez rigolo que le comité olympique ait eu l'idée de faire les prochains JO directement sur la banquise pendant que c'est encore temps. Et puis voilà, c'est un terrain de jeu pour évidemment s'amuser et voir comment tout se casse la gueule, comment ils prennent des blocs de glace sur le coin du nez et comment voilà, tout ça un petit peu est en train de s'effondrer, quoi. C'est un peu l'humour du chaos, quoi, l'humour de ce qui nous inquiète, en fait. C'est juste une traduction.
J'ai eu un mot qui m'est venu en voyant ce spectacle, c'est cabaret écologico-comique.
Ouais, c'est pas mal. Moi, je revendique hein, la forme cabaret. Quand elle est au service de sujets comme ça, je trouve que ça met vraiment le fond et la forme dans une esthétique et dans une machine qui avance, qui donne aussi la plénitude du spectacle. Moi, j'aime quand le spectateur, il en a pour son argent d'une certaine manière. J'aime qu'il soit satisfait. À la limite, s'il n'aime pas la chanson, au moins il aura le théâtre. Et s'il n'aime pas le mime, au moins il aura la danse. En tout cas, il en aura pour son argent. Et souvent, quand on joue pour des jeunes notamment, parce qu'on joue quand même beaucoup pour les collèges et les lycées également ce spectacle, il y a des collégiennes et lycées qui nous disent « Mais on ne pensait pas que c'était ça le théâtre ». On pensait forcément, hein, ils ont forcément vu des spectacles avec des perruques, et puis bah, ils ont étudié des textes un petit peu parfois complexes au collège, et ils ne pensaient pas que c'était possible de faire ça au théâtre. Et je trouve que c'est assez réjouissant de se dire, bah, on va aussi rechercher des spectateurs qu'on a certainement perdus dans nos métiers, et je pense que ça fait aussi partie d'une quête de faire venir, voilà, je le disais tout à l'heure, celui qui n'avait pas prévenu, qui n'avait pas prévu de venir. Et en tout cas, s'il vient, cette forme-là, elle peut embrasser plein de choses pour lui. Ça me semble important.
J'ai envie de dire même ces formes-là, puisque vous parliez de la musique, on a droit à des karaokés et des chansons de plus ou moins bon goût, de la variété des années 70-80. On a droit à du clown, on a droit à du mime, on a droit à des comiques de situation. Comment ça naît ce spectacle? J'ai lu quelque part que c'était un spectacle de plateau, c'est-à-dire qui est né d'improvisation, c'est ça, avec vos comédiens?
Alors, pas que d'improvisation, mais c'est un spectacle qui a été créé de manière très empirique. Je ne suis pas du tout un auteur qui arrive avec un texte le lundi matin qui dit « Voilà, allez, on commence à répéter. » Je ne sais pas faire ça. Alors, j'écris des scènes, j'écris évidemment des choses. J'arrive avec des propositions, mais je suis assez amoureux du cadavre exquis. Et j'aime beaucoup, pour vous donner une idée, j'ai dû écrire entre 20 et 30 000 cadavres exquis au lycée avec un copain. On a passé notre temps à se marrer. Parce que j'aime beaucoup la confrontation des choses qui ne peuvent pas se rencontrer.
On peut rappeler ce que c'est qu'un cadavre exquis.
Un cadavre exquis, c'est un des premiers cadavres exquis, ça a été cadavre exquis. Évidemment, cadavre et exquis ne vont pas ensemble. Et en gros, c'est on écrit un début de phrase, et puis on plie la page et on demande à son camarade de bien vouloir écrire la suite. Et ça fait évidemment des mariages complètement surréalistes et poétiques. Et beau, et c'est, je trouve, un bon moyen de pouvoir aussi faire notre métier. Moi, j'aime beaucoup ça. Je suis passionné de surréalisme et du mouvement Dada. Et j'ai aussi aimé travailler comme ça. Donc, le spectacle, il arrive avec des formes. Et bien, à un moment donné, on confronte les formes. Et en fait, je ne mets pas forcément la narration, à proprement parler, au cœur du spectacle. Pour moi, c'est le spectateur qui fait le spectacle. Et c'est en additionnant des scènes, alors on lui donne évidemment un petit fil conducteur pour pas qu'il soit trop perdu, mais finalement c'est l'addition des scènes qui crée le spectacle. Et à la fin, si on doit résumer le spectacle, finalement c'est assez compliqué à résumer. D'ailleurs, c'est pas très intéressant de résumer. C'est plutôt une énergie, un mouvement, un, un souffle comme ça, surréaliste, absurde, qui nous fait refléter évidemment tout le sens qu'on va chercher et le caractère vertigineux de parler de climat et de ce qui va nous arriver, de ce qui nous arrive déjà.
On est avec Ludovic Pitorin et on parle aujourd'hui de Climax sur Radio Scénique, Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. J'ai chaud.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique évoque aujourd'hui la montée des régimes autoritaires et la crise climatique. Comment on parlait au théâtre, c'est notre thème de ce jour. On va retrouver Ludovic Pitorin et son Climax dans lequel la crise climatique est évoquée avec humour. Mais d'abord, on en écoute un deuxième extrait.
Je me présente, je suis un des fondateurs du mouvement Phytoplancton Rebellion.
Nous sommes comme le lapin tétanisé face au phare du camion qui va l'écraser.
On vient d'entendre un extrait de votre spectacle, Ludovic Pitorin, Climax, qui est actuellement présenté au Lucernaire. Climax, c'est ce que vous qualifiez de rire de résistance.
Oui, j'aime bien cette phrase parce que pour moi, le rire doit nous emmener vers du mouvement aussi, vers une forme d'action. Pour moi, le rire, ça doit aussi apporter de l'action, l'envie de résister, l'envie d'agir. Et ce spectacle, quand on l'a monté, on s'est dit, faut qu'on donne envie. Faut évidemment que ça soit vertigineux parce qu'on ne va pas sortir les mouchoirs et juste se dire, bah voilà, ça tout va mal. Non, faut que ça nous donne envie d'agir. Et donc, on a essayé de mettre en action tout ça pour que le spectateur soit dans l'action par la suite, ou en tout cas, ça le mette en réaction.
J'ai pensé à un humoriste, mais aussi un résistant. Il s'appelait Pierre Dac et il avait créé avec Francis Blanche un parti qui s'appelait le Parti d'en rire dans les années 1940. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah ouais, moi ça m'inspire beaucoup, évidemment. Parti d'en rire, c'est une façon de voir le monde. Hein. C'est une manière de se projeter finalement sur une scène. Comment on projette notre âme, notre être sur un plateau de théâtre ? Bah moi j'ai envie de dire, si j'ai eu cette chance-là de peut-être avoir un jour le sens de l'humour, bah peut-être que je pourrais le projeter aux autres, et puis en tout cas faire un pas de côté et essayer de mettre un peu de foutre un peu le bordel là-dedans, quoi, un bordel intelligent. Moi j'aime bien ça, on est des espiègles, des poils à gratter. Moi je pense que dans le poil à gratter, ce qui est bien, c'est que ça fait mal et ça fait rire aussi. Donc il y a les deux, quoi. Ça gratte, quoi.
J'ai envie de reprendre ce concept de bordel sur scène parce que c'est un peu ça. On a l'impression que tout ça est un gigantesque foutoir, mais c'est un foutoir très organisé.
Ouais, c'est de la dentelle, hein, évidemment. Ça paraît comme ça extrêmement, extrêmement foutraque parce que le spectacle, il se veut évidemment qui part dans plein de directions différentes. Donc forcément, on switch d'une maison de retraite et dans la seconde qui suit, on est dans la forêt amazonienne, puis on se retrouve à la COP 34 à Bali. Enfin bref, c'est des switches qui vont très vite.
Alors, on va s'arrêter sur cette scène justement de la COP à Bali parce que bon, c'est un peu votre affiche. Vous avez ces quatre personnages très, très sérieux, hein, qui sont à moitié habillés, partie haute, costume, cravate, partie basse, maillot de bain, et partie du milieu, une très jolie bouée signe.
Ouais, Alors, ce qui est très curieux, c'est que cette scène, pour ceux qui viendront, ceux qui veulent regarder un peu sur les réseaux comment est représentée cette image, moi, je l'ai eue très vite, en fait, en me disant, ça serait quoi la COP 34 ? Et donc, là, à l'époque, hein, c'était donc il y a quand même quelques années, hein, parce qu'on s'y rapproche, hein, donc on arrive bientôt à la COP 34. On s'était dit, ça serait quoi la projection ? Moi, la première idée que j'ai eue, ça serait évidemment des politiques et des énarques qui viendraient nous donner les résolutions de cette 34e COP, les pieds dans l'eau, évidemment, avec des bouées après un déjeuner de travail très arrosé. Ça, c'était la situation de départ. Et d'ailleurs, cette situation-là, on l'a retrouvée sur les réseaux sociaux quelques mois après. On a vu un homme politique polynésien qui a fait la même image, sans que nous on le sache, hein, qui a fait la même chose dans le lagon, je ne sais plus si c'était à Moréa ou à Tahiti, et qui s'est mis en caleçon, costard cravate en haut, un pupitre dans l'eau, et qui a fait un discours. Et cette image, elle est très forte. Et finalement, bah, c'est cette image qu'on a créée. C'est cette image absurde. Et finalement, lui, il l'a fait au premier degré pour interpeller. Nous, on l'a fait au second, mais avec un premier degré qui interpelle aussi. Et puis, ces personnages qui viennent donner leur résolution, on se rend compte que finalement, à chaque COP, c'était plutôt un pas en arrière qu'un pas en avant. Et que c'est un terrain de jeu pour raconter un peu toutes les mésaventures qu'ils ont pu avoir dans le privé, comment à un moment donné, ça profite, ça s'amuse lors des COP, et que tout ça va vers l'inaction. Et il y a le personnage principal de cette scène qui, à un moment donné, se révolte d'une certaine manière. Ça devient presque la voix du peuple qui dit peut-être que maintenant, on va prendre nos responsabilités et on va commencer à avancer. Il commence à délirer autour de ce que ça pourrait être la suite et comment on pourrait tous se mettre à agir. Et là, c'est le terrain de jeu d'une métaphore footballistique assez dérisoire, mais plutôt très drôle. Et jusqu'à, on ne va pas spoiler la scène, mais c'est comment on met des scènes au profit d'un propos. Et ce que j'aime bien dans ce théâtre, c'est qu'on peut avoir deux lectures. Moi, quand je joue cette scène-là, je vais la jouer ce soir. J'arrive aussi bien à la jouer au second qu'au premier degré, parce que pour moi, il y a deux lectures. Et donc, du coup, c'est plutôt très intéressant, je trouve ça.
Ces personnages, ils sont parfaitement sérieux, ils vivent parfaitement la situation dans laquelle ils sont. Et lorsque l'un de ces membres de cette COP 34 donne les deux premiers articles des résolutions, qui sont article 1, faisons des efforts, deuxième article, faisons des bisous ou des câlins à ceux qui font des efforts, ils y croient complètement. On est vraiment dans le plus profond de ce que c'est que le rire, c'est-à-dire des personnages qui vivent une situation dramatique.
Oui, il y a aussi le côté, ces personnages-là, à un moment donné, sont devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur dit, vous sortez du buffet, vous allez, parce que là, il y a 2000 personnes qui vous attendent pour les résolutions. Ah bon ? Alors, allez, encore un bout de chorizo entre les dents, et puis ils finissent un verre de cognac, et puis ils rentrent. Alors, ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont dire, et évidemment, ils sont en train de l'inventer. Mais la première réplique qui tombe comme un obus au milieu de rien, faisons des efforts, est suivie par le deuxième article qui est félicitons nos efforts. Et le troisième article, encourageons-nous d'une certaine manière. Il y a un côté comme ça où tout tombe complètement à plat, quoi. Ce sont des situations absurdes, comme si évidemment un homme politique nous disait aujourd'hui faisons des efforts. Oui, d'accord, mais... Voilà, là on est plutôt au milieu de la COP, hein, donc c'est plutôt là des décideurs. Donc c'est un petit peu, le niveau devrait être un petit peu plus haut quand même. Donc oui, c'est une scène très 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 drôle, très joyeuse.
Alors on va garder le suspense total, mais à titre de spectateur, je dois dire que j'ai été complètement saisi par la scène finale qui consiste en une sorte de chronomètre, chronomètre vers l'inéluctable, qui explique en quoi l'action humaine. L'action humaine destructrice représente rien dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la Terre.
Alors, vous l'avez vu comme ça, hein, l'histoire destructrice. Moi, je mets plutôt en perspective le fait que tout ça se soit fait en un battement de cils. C'est-à-dire que depuis la révolution industrielle, nous avons rejeté pétrole, gaz, charbon et que toutes les énergies fossiles qui étaient en dessous se sont retrouvées au-dessus. En 200 ans, voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est la révolution industrielle, ce qu'on connaît actuellement. Aujourd'hui, on nous dit il faut arrêter pétrole, gaz, charbon. Donc, il faut arrêter de forer. Il faut arrêter d'aller récupérer ces énergies fossiles. Alors, évidemment, on est en transition. Hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais cette scène-là, moi, j'ai voulu la mettre en perspective pour dire que dans l'histoire de l'univers, ça ne représente finalement rien. C'est-à-dire que l'homme est arrivé, si on doit compresser l'histoire de l'univers dans un calendrier, l'homme est arrivé à 23h59min59s et 59 centièmes, 58 centièmes d'une certaine manière. Il est arrivé au bout du bout, et au bout du bout, il a fait un truc de dingue, quoi. Il a fait un truc qu'on n'aurait jamais pu imaginer, c'est qu'il a déréglé le système planète Terre, donc son système à lui, quoi. Et donc là, on se rend compte que c'est extrêmement vertigineux et qu'en mettant en perspective la vitesse à laquelle on a fait tout ça, doit nous mettre aussi en mouvement pour nous dire qu'il va falloir qu'on aille aussi très vite à l'idée de ne plus continuer à rejeter autant d'énergie fossile dans l'atmosphère. Donc c'est une mise en perspective de la rapidité des choses, en fait.
Comment est-ce qu'on arrive à garder en tête, vous êtes l'auteur final de ce texte et de ce spectacle, comment est-ce qu'on arrive à garder en tête de manière permanente l'aspect dramaturgique? On termine sur une espèce d'acmé. Comment est-ce qu'on se dit le rire certes, le travail de plateau certes, mais n'oublions pas d'avancer dans le propos? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça?
On arrive à faire ça en chargeant les acteurs, un peu comme on charge des piles. C'est-à-dire que la première chose qu'on a faite au démarrage du travail du spectacle, c'est de se confronter au sujet. Donc ça a été énormément de lectures, des documentaires, des rencontres avec des scientifiques, arriver à savoir de quoi on parle. Et une fois que les acteurs sont chargés, commencent à répéter, quand ils commencent à répéter, évidemment, ça sort, mais c'est pas une comédie, hein, c'est une tragédie au départ qui sort. Et c'est arrivé, au bout de quelques mois, on se dit, pourquoi on a monté une tragédie? C'est pas ce qu'on avait prévu, quoi. On est plutôt en prévu de monter une comédie, mais là, il n'y a rien de drôle dans tout ce qu'on fait. Et finalement, on transforme ce qu'on a chargé, cette pile qui a été chargée, tous les artistes, et on essaie de transformer, de trouver juste les angles, les pas de côté à chaque fois, pour faire en sorte que ce qu'on a décidé de monter, ce chaos-là, finalement, on va réussir à faire rire les gens avec. Et ça, c'est très complexe. Mais pour ça, les acteurs, moi je ne cesse de parler de ça avec eux, c'est que c'est un sujet, il faut absolument qu'on mette nos tripes, notre âme, et qu'on transpire la véracité, la puissance du propos, pour qu'en face, eux aussi, les spectateurs, puissent eux aussi transpirer avec nous. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est si on peut pas être jeune dans le crime. Hein. J'avais un prof de théâtre qui était Pierre Debauche, pour ceux qui connaissent, qui disait souvent ça, quoi. On peut pas rentrer au théâtre avec une pensée petite bourgeoise pour raconter des choses qui ne le sont pas, quoi. C'est absolument, on a besoin d'avoir les tripes de l'acteur. Et on les a chargés. Alors après, ils se déchargent sur le plateau et après ils se rechargent la nuit. Voilà comment on fait.
On peut dire à titre, le témoignage du spectateur que je suis, c'est qu'on rentre, mais on n'en sort pas tout à fait indemne de ce spectacle. C'est-à-dire qu'avec votre rire, vous instillez une pensée qui finit par nous habiter un petit peu sans qu'on s'en rende compte. Deux, trois petites minutes pour parler de votre compagnie, parce que, en dehors de l'intérêt foncier de ce spectacle et de cette jouissance absolue qu'on a comme spectateur d'y assister, il y a un esprit de troupe. Vous, vous baladez, vous êtes un peu comme des saltimbanques avec votre caravane, vous êtes quasiment autonome avec votre spectacle.
Oui, on est autonome, c'est la marque de fabrique de la compagnie d'être...
La compagnie zygomatique.
Oui, la compagnie zygomatique. Souvent on nous dit, vous êtes une compagnie de rue qui joue en salle. Et je trouve que c'est assez juste, parce qu'on a le fonctionnement d'une compagnie de rue. On travaille un peu comme des forains, c'est-à-dire qu'en gros on amène tout notre matériel, on s'installe là où on peut jouer, et évidemment avec le minimum requis, et puis partout où on peut, on va jouer dans les lycées, les collèges, pour des entreprises, pour des grands théâtres, pour des petits théâtres, des théâtres à l'italienne, des salles des fêtes en un seul mot. Partout où on peut être utile avec ce spectacle, on essaye de répondre à présent. Donc ça a amené une mise en place technique. Donc tous les comédiens sont techniciens, on n'a pas de régisseur, c'est les comédiens qui font la technique du plateau, c'est les comédiens qui font le montage, c'est les comédiens qui font le démontage, c'est les comédiens qui conduisent le camion, c'est les comédiens qui chargent le camion, c'est les comédiens qui balayent le camion. Voilà. Moi j'aime beaucoup cet esprit de travail, de troupe, parce que ça nous permet aussi, au-delà du fait d'avoir les mains dans la matière, de rester toujours à notre place en tant qu'artiste. Avec le succès de ce spectacle, on pourrait vite prendre la grosse tête. Et moi, j'aime bien de toujours garder les acteurs et toute l'équipe toujours dans le réel. Et le réel, c'est rencontrer les gens, surtout ceux qui n'avaient pas prévu de venir, dans un lycée, dans un collège, pour jouer pour une banque, un assureur ou je ne sais quelle entreprise, ou même des gens qui ne savaient même pas ce qu'ils venaient voir finalement au théâtre. Donc, j'aime beaucoup cette façon de faire.
Alors, votre compagnie Zygomatique, elle a choisi de s'arrêter quelques temps au Lucernaire pour jouer Climax. S'il y avait une seule raison pour aller voir Climax, j'en ai donné plein, mais allez, en tant que directeur de la compagnie, metteur en scène et comédien aussi, vous jouez en alternance, j'imagine aussi pour rafraîchir le propos, être toujours aussi frais que j'ai pu vous voir sur scène. S'il y avait une seule raison pour aller voir Climax.
Alors j'ai prendre des références, comme ça donne des familles. Si vous aimez les Monty Python, si vous aimez les Deschiens, si vous aimez l'humour à la Tati, Buster Keaton, voilà, pour trouver un peu les familles, si vous aimez l'univers cabaret avec le chant, le mime, la danse, voilà, vous allez déjà avoir une forme qui va vous plaire. Et ensuite, si vous aimez être interpellé, un petit peu chatouillé, ce spectacle, voilà, va vous chatouiller sur un sujet important. Donc le fond, la forme, ça fait un mélange et une sorte de cocktail Molotov comme ça, balancé. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un spectacle un peu poil à gratter. Donc si vous aimez un petit peu vous faire surprendre, bah, venez voir Climax parce que c'est une vraie belle surprise.
Ludovic Pitorin, merci.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Le nez sur la radio qui répète qu'il fait chaud. Pas envie de travailler, je reste couché, je déraille. Tous les jours c'est pareil, faut que je me cache du soleil, il fait chaud. Faire attention au soleil, il fait chaud. Et tous les jours c'est pareil. Échanger cigarette, allongée sur le dos. Tout paraît moins honnête sous soleil bornéo. Tu joues tequila, tu bois et tu bois. Ça me fait vraiment mal de te voir dans cet état. Il fait chaud. Faire attention au soleil. Il fait chaud. Et tous les c'est pareil. Et toujours cette chaleur, sueur qui colle à la peau. Dormir à la même heure, par les mêmes sirops. Traîner un petit pas, moi te
fin de cette 24e édition de Radio Scénique. Merci à nos invités de ce jour. Dans l'ordre d'apparition dans vos oreilles, il y avait Yann Roseau. Vous avez jusqu'au 30 janvier pour vous rendre à la Manufacture des Abbesses et aller voir Les Témoins, sa pièce qui nous confronte à l'arrivée d'une extrême droite autoritaire et liberticide au pouvoir en France. C'est un coup de poing et un bel exercice de jeu collectif. Merci à vous, Yann Roseau. Notre deuxième invité, c'était Ludovic Pitorin avec sa compagnie Zygomatique. Il présente Climax, un cabaret comico-climatique au Lucernaire. C'est décapant et instructif. Vous l'avez compris, on a aimé les spectacles de nos invités et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont avec nous. Merci à Pierre Demkov qui m'a assisté pour l'émission de ce jour. C'est également Pierre qui a assuré la programmation musicale de Radio Scénique. À la technique, il y avait aujourd'hui Enrico Mastrogiovanni. Un grand merci à lui. Vous souhaitez nous réécouter? Pas de problème. C'est sur le site aligrefm.org sous la rubrique Nos émissions. Vous trouverez le podcast de l'édition de ce jour de Radio Scénique ainsi que toutes les éditions précédentes. Et il y a plein d'informations complémentaires. Le 9 février, nous aurons le plaisir de rediffuser l'entretien que nous avait accordé Judith Magre. Ne manquez pas ce grand moment de prestidigitation verbale d'une grande comédienne. On se retrouvera en direct le 23 février à 10h sur Aligre FM 93.1. D'ici là, allez au théâtre, c'est là qu'est la vie. À 11h, vous retrouverez Vive le cinéma. Bernard Payen recevra Evgenia Alexandrova, c'est la directrice de la photographie de l'excellent film brésilien, ça c'est mon avis, L'Agent Secret, signé Kleber Mendoza Filho, un film nominé 4 fois aux Oscars cette année. On sera tous à l'écoute.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.